en écoutant la radio sur la place Satonnet.
Donc, Rancard mercredi prochain, place Satonnet ou sur le 102.2 à 18h.
Et depuis qu'on a annoncé notre autodestruction,
on vous a invité à nous envoyer des cartes postales.
Et on en a eu déjà des dizaines.
On a eu des cris.
Des gens qui disent « Non, n'arrêtez pas !»
On en a des cartes de Lyon.
Mais aussi d'Angoulême.
Des grottes.
De Tivoli.
De Belle-Île.
De Florence.
De Barbastel.
De la ZAD.
De Bretagne.
De Marseille.
De Radio Galère.
De partout.
On a eu une lettre super touchante depuis Vassivière.
On a eu une carte qui chante de la CGT.
On a eu des cartes artisanales.
Une en forme de poste de radio.
On a eu des belles enveloppes dessinées.
On a eu une invitation pour aller au MEDEF.
On a eu plein de mots trop gentils.
Et plein d'autres choses qui nous font battre le cœur.
C'est beau.
Alors plein de merci.
Mais on en veut encore.
Alors si vous n'avez pas encore envoyé votre carte,
c'est le moment.
C'est maintenant.
C'est ta dernière chance.
Et là, il reste qu'une semaine avant la fin.
Alors prends un stylo et note.
Méga Combi, Radio Cadu,
24 rue du Sergent Blandan,
69001 Lyon.
Tout de suite,
maintenant.
Méga Conduit, Radio Canu.
24 rue du Sergent Blandan,
69001 Lyon.
Parce que la semaine prochaine, c'est la dernière.
Elle durera 2 heures.
Ça commencera à 18h.
Ça sera mercredi.
Sur Radio Canu.
Méga Combi, c'est fini. La toute dernière Méga Combi, c'est mercredi. C'est chaud.
Tu me planteras des gages, si tu me planteras des gages. Si tu me planteras des gages, je t'appuierai.
Dans un instant, c'est les infos.
Si t'es contre le nucléaire, tape dans tes mains.
En attendant,
si
bois l'apéro.
Si t'es contre le nucléaire, tape dans tes mains.
Fume un bédo.
Si t'es contre le nucléaire, si t'es contre le nucléaire. Si t'es contre le nucléaire, tape dans tes mains.
Et allez, un dernier petit mot.
Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en 48 heures les pays scandinaves. Maintenant, les prévisions. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est.
Méga Combi, c'est fini!
Bonsoir. Il est donc 19h passé de 4 minutes. Tout le monde est un peu à l'arrache, tout le monde n'est pas assis dans le studio.
Ah ouais, on est en train de courir, mais on s'installe et c'est l'heure du Canu Info.
Ce soir, de quoi qu'on va parler ?
Eh bien, ce soir, on va commencer par, après quelques minuscules brèves, on aura presque certainement au téléphone quelqu'un de Bure, où ce matin, on a eu 5 perquisitions de lieux de vie d'opposants au projet Cigéo et 7 interpellations. On aura quelqu'un pour nous en parler.
Ensuite, on parlera d'immigration dans le monde en 2018, cette journée mondiale des réfugiés.
Bastamag recense les personnes décédées au cours d'une opération de police en France pendant les 40 dernières années. C'est une base de données a priori inédite.
Ensuite, on parlera de déroute de la gauche, partout, en particulier en Colombie, et avec une analyse aussi de ce qui se passe en Inde.
Des collégiens au tribunal pour un journal rédigé en permanence, un exemplaire, en gros une feuille de papier sur laquelle ils ont écrit, mais ils se retrouvent au tribunal bel et bien.
Et si on a le temps, on parlera du 20 juin 1940. On commence par les brèves avec une étude qui est sortie aujourd'hui et qui montre que les Américains ne représentent que 4% de la population mondiale, mais ça on le savait, mais ils possèdent 40% des armes de petit calibre dans le monde. Voilà, il existerait plus d'un milliard d'armes de ce type en circulation sur la planète, donc 85% sont détenues par des individus, le reste étant possédé par des militaires et des policiers. On verra un petit peu ce que ça donne avec les armes quand elles sont dans les mains de la police juste après. Sur les 857 millions d'armes détenues par les civils, eh bien, il y en a près de 400 millions, qui sont recensés aux États-Unis. Alors, j'ouvre les guillemets, dans le rapport écrit, chaque année, les Américains achètent environ 14 millions de nouvelles armes. Le marché américain est très permissif, ben, on le sait, hein, forcément, l'accès aux armes est assez facile de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, juste des chiffres, 100 Américains détiennent en moyenne 121 armes, en moyenne, on a 53 armes pour 100 personnes du Yémen, 39 armes pour 100 personnes du Monténégro, 35 armes pour 100 personnes du Canada, et moins d'une arme pour 100 japonais, japonaises ou indonésiennes. Voilà, enfin les records du monde, c'est les
États-Unis. Chiffres pour la France ?
J'ai pas de chiffres pour la France.
D'accord. Alors... ok. Alors du coup, ce matin, du côté de Bure, cet endroit où un projet de décharge à déchets nucléaires est dans les tuyaux.
C'est le cas de le dire, il s'agit de construire des méga tuyaux à 300 mètres sous terre qui seront ultra sécurisés, sauf qu'ils veulent que ce soit le cas pour environ un milliard d'années.
Et quand on dit ultra sécurisé, bien sûr, ça pose tout un certain nombre de questions. Et en tout cas, c'est un endroit où des gens s'opposent à ces projets depuis un petit moment déjà. Ils se sont installés sur place et ont aussi monté des cabanes sur le lieu où devait faire le projet. C'est aussi toute une guerre contre ce truc qui s'appelle l'ANDRA, qui est l'Agence nationale des déchets radioactifs.
Voilà, et souvent sur cette antenne, on dénonce ce projet qu'on considère comme une hérésie.
On a parlé un certain nombre de fois.
Et donc là, on a au téléphone. Est-ce que tu nous entends ?
Ouais, je m'entends un peu mieux là. Ouais.
Super. Alors, est-ce que avant de commencer, parce qu'il n'y a que moi qui m'a dit, il n'y a que moi qui ai entendu ce que tu m'as raconté, est-ce que là, tu peux me dire un peu c'est quoi l'ambiance juste maintenant dans laquelle t'es ?
Où tu parles ? Ouais, voilà, c'est très particulier parce qu'il y a moins de 5 minutes, je viens de voir passer devant chez moi 3 camions de gendarmes mobiles et on a capté qu'ils allaient perquisitionner des potes tout près. Donc voilà, du coup c'est un petit peu stressant, c'est tout près d'ici. Bon, voilà, j'ai essayé quand même de rester calme et de raconter un peu ce qui s'est passé dans la journée.
Ok, parce que cette journée a commencé très fort. Alors toi t'as été réveillé comment, à quelle heure, et explique-nous un peu ça.
J'ai été réveillé en entendant un grand gendarmerie super fort. Très rapidement, il y a deux gendarmes qui sont venus dans ma chambre avec des projecteurs en criant « Votre nom, votre nom, votre nom !» Enfin, voilà, en essayant d'user de l'effet de surprise, du sommeil pour pouvoir capter de l'info et tout. Donc ça a commencé comme ça. voilà, après, malheureusement, c'est vu les dérives de l'État ces derniers temps par rapport à Bure, c'est pas si surprenant que ça, même si ça reste affreusement scandaleux, mais voilà. Alors, donc, c'est... heureusement, il y avait l'effet de surprise, mais c'était pas... Donc voilà, on se fait réveiller comme ça et très rapidement ils nous ont dit qu'ils cherchaient une personne qui était pas là. Donc en gros c'était censé être leur motif pour rentrer dans la maison, simplement qu'ils cherchaient une personne pour la mener en audition libre, dite libre. Et en fait après ils sont un peu ressortis dehors et ils ont dit qu'ils allaient procéder à une perquisition. Donc on a insisté pour avoir le papier, même si c'est facilité maintenant, il y a quand même encore besoin d'un papier pour entrer dans le domicile des gens et ils nous l'ont jamais montré.
Alors juste pour faciliter
ils ont dit
un
qu'ils avaient le droit, de toute façon qu'ils avaient le droit, et puis à la fin ils ont un peu forcé la porte, forcé le passage, ils sont rentrés, ils ont fait une perquisition dans la maison quoi, en fouillant toutes les pièces par pièce, etc.
Juste pour préciser, tu peux nous dire, donc t'es vraiment dans, donc tu es habitant à proximité immédiate de ce lieu de lutte.
Ah merde, je vous entends très mal. Merde. Allô?
Oui, c'était juste pour savoir, pour que tout le monde puisse bien comprendre, tu es habitant direct d'un village ou d'un des approximations, enfin de aux environs de ce lieu de lutte à Bure.
Ouais, c'est ça, exactement. Je suis habitant dans un village. Ça fait déjà plusieurs années que je lutte ici et là voilà, je me suis installé dans un village près de Bure pour un peu m'ancrer ici, mener le combat contre CGO à long terme quoi.
Et alors, ta maison n'est pas la seule à avoir été perquisitionnée aujourd'hui. Moi, pour les infos que j'ai réussi à capter, il y en avait 5, mais là, si tu me dis qu'il y en a encore une maintenant, peut-être qu'il y en a encore d'autres que...
Ouais, bah là, je pense qu'on atteint 10 ou 11, quelque chose comme ça.
Ok, il y a des personnes qui ont été arrêtées aussi.
Ouais, il y a... Alors, j'ai pas les tout derniers chiffres, mais il y a au moins 7 gardes à vue, plusieurs vérifications d'identité, donc c'est-à-dire on est amené au poste pendant 4 heures, plus 3 auditions libres, donc qu'ils appellent libres, mais sous la menace d'une garde à vue. Donc voilà, on est à au moins, une dizaine, douzaine d'interpellations, quoi. Sur des motifs très divers, complètement délirants. Voilà. Et ils avaient des arrestations ciblées. Je connais quelqu'un qui vraiment était attendu devant son domicile et voilà, qui s'est fait à moitié sauter dessus à son arrivée en lui notifiant des motifs d'interpellation complètement absurdes.
Alors, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est les motifs d'interpellation et les motifs pour les gardes?
Alors, j'ai pas eu vent de tous les motifs pour toutes les personnes, mais très souvent, là c'est un truc qu'ils sont en train de développer de plus en plus. C'est le motif de participation à un attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. Donc ça, c'est un truc que ça existe depuis quelques années, mais c'est énormément utilisé depuis quelques mois. Depuis en fait essentiellement les mobilisations contre la Parcoursup, la réforme de la SNCF, etc. Et qui permet en fait d'incriminer n'importe quelle personne présente sur une manifestation et de pouvoir parce que on trouve, je ne sais, par exemple un masque de peinture qui protège un peu des gaz ou même un t-shirt, vraiment n'importe quoi en gros qui pourrait laisser soupçonner que on a été masqué pendant cette manifestation et qui permet de dire vous étiez masqué, en tant qu'il n'y a pas de preuve, mais ça peut être juste quelque chose retrouvé dans le sac, même un masque de piscine, enfin n'importe quoi, grâce à ce petit objet on vous dit que c'est parce que vous vouliez commettre des dégradations ou des violences. Et donc c'est un délit qui permet de d'inculper les personnes pour des intentions et donc en fait pour des opinions politiques in fine quoi, et du coup en fait de pouvoir interpeller n'importe qui parce qu'il n'y a plus besoin de preuves matérielles d'un acte délictuel, parce qu'ils ont inventé le délit qui permet de ne plus avoir d'acte illégal mais de simplement supposer des intentions chez la personne quoi. Et donc ici ils commencent à l'utiliser aussi beaucoup, on a eu des procès le 23 mai et le 12 juin où il y avait pas mal de personnes qui étaient accusées de ça, donc on a délibéré pour 16 personnes le 26 juin. Donc on verra comment ils appliquent ça dans des procès politiques, quoi. Mais voilà, c'est un délit qui revient très souvent.
De toute façon, Bure, c'est-à-dire vous, globalement, vous êtes la cible de ce qu'on pourrait presque appeler une sorte d'expérience de radicalisation et de la répression judiciaire et du harcèlement policier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe depuis le mois de février où il y avait déjà eu des expulsions et voire même depuis avant, quoi?
Ouais. Bah clairement, moi par avant j'étais là quand une gendarme a dit les motifs d'une interpellation en parlant de participation, attroupement, etc. Et j'ai rigolé, j'ai dit mais pourtant il fait pas partie des gendarmes, la personne arrêtée, parce que voilà, ça fait vraiment penser à ça dans le coin, cette espèce de bande organisée, quoi, qui sillonne le territoire en permanence, qui fait, enfin ce serait difficile de dire des chiffres, mais on est en moyenne une demi-douzaine de contrôles qui, pour une bonne partie, finissent en vérification d'identité, de contrôles routiers, quoi, qui finissent en vérification d'identité dans le coin. Donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui maintenant ont peur de sortir de chez elles pour juste aller à pied ou en vélo dans un autre lieu de vie. Ça atteint vraiment un truc vraiment, vraiment délirant, quoi. Ils essayent vraiment d'installer la peur chez les militants anti-CGO. Ils parlent de radicalisation des militants. Mais c'est vraiment une vaste blague. Là, en plus là, tous les lieux qu'ils ont visés, en fait, c'est des personnes qui font partie d'associations locales historiques de lutte contre CIGEO. Donc c'est essentiellement pour intimider les associatifs, disons, pour faire simple, pour qu'ils se désolidarisent et qu'ils cessent de lutter, quoi. C'est clairement des méthodes d'intimidation, parce que bien sûr dans leur commission rogatoire, parce que le motif principal de toutes les perquises, c'est ce qu'on appelle une commission rogatoire d'un juge d'instruction contre ce qu'ils appellent l'association de malfaiteurs, qui a aussi un délit très pratique dont le pseudo groupe de Tarnac avait été accusé. Et du coup, voilà, ils utilisent ça pour faire leur perquisition, pour faire déjà voilà les 18 perquisitions qu'on a vécues depuis septembre dernier.
Et est-ce qu'on peut profiter de t'avoir au téléphone pour que tu nous décrives un petit peu où en sont j'allais dire les travaux. On sait qu'ils ont plus ou moins rasé la forêt. Où ils en sont, est-ce que tu peux nous préciser ça?
Alors, donc là on va avoir beaucoup beaucoup de risques d'avancement vraiment conséquent de la poubelle nucléaire à partir de la rentrée, c'est-à-dire pour septembre et l'automne. Il y a à la fois la menace de défrichement de 60% du bois Le Jus, donc le bois qui a été occupé pendant un an et demi. Donc ce défrichement-là, sous prétexte de fouilles archéologiques, donc il se donne un bon prétexte pour raser la forêt. Ensuite, la réhabilitation d'une voie de chemin de fer sur plusieurs dizaines de kilomètres pour faire arriver les trains de déchets. Le transformateur électrique. Alors il y aura un énorme transformateur électrique sur un terrain de 7 hectares près de Bure, qui est destiné à alimenter en électricité à la fois la poubelle nucléaire et l'Andra. Donc voilà, plus RTE, donc l'agence qui gère le transport d'électricité, qui a le droit de passer sur toutes les propriétés sur un territoire immense, sous menace d'intervention des forces de l'ordre. Donc voilà, vous êtes obligé de laisser rentrer ces salariés-là pour faire leur prélèvement, leur forage dans votre jardin, sinon c'est intervention des forces de l'ordre immédiatement. On voit, il y a une espèce de pressurisation énorme des habitants ici, quoi. Et voilà, il y a vraiment des gros enjeux. C'est pour ça qu'on organise du 3 au 10 septembre un rassemblement à Bure et ailleurs, voilà, avec il y a encore plein de choses à détailler, mais un rassemblement pour réagir à ces échéances de CIGEO, qui donc le nom du projet, qui arrive bientôt.
On avait parlé sur cette antenne d'un article de Bastamag qui avait compilé un petit peu la quantité d'argent public qui avait été dépensé, notamment pour arroser à droite, à gauche, pour construire des nouvelles choses, en fait pour gagner la bataille de l'opinion. Est-ce que tu peux être témoin de tout ça? Il parlait de villages dans lesquels les éclairages étaient rutilants, où en fait le fric tombait du ciel un petit peu. Voilà, donc ça c'est quand même assez grave, puisqu'il s'agit un petit peu de batailler pour croquer l'opinion avec de l'argent.
Ouais, bah c'est, faut vraiment voir le côté inédit. C'est la première fois qu'il y a autant d'argent qui est dépensé aussi longtemps avant que le projet ait même une existence légale. Donc ils ont commencé à verser de l'argent à partir de 1995, alors même qu'ils disaient qu'ils allaient simplement faire un laboratoire de recherche et pas du tout une poubelle nucléaire. Et donc là on en est presque à 1 milliard d'euros dépensés. Donc ça veut dire que l'argent il va partout, quoi. C'est l'argent donc qui est amené par les producteurs de déchets. Ça va dans le moindre, le lampadaire qui est fait aux couleurs de l'Andra, les trottoirs qui sont refaits, des salles des fêtes à 1 million d'euros pour un village de 80 habitants, des hôtels-restaurants qui sont jamais pleins à part par des cadres de l'Andra. Enfin, y a une espèce comme ça d'inondation, même parfois pour refaire l'isolation de sa maison, pour financer un club de foot. Vraiment, il y a tout. Vraiment, le nucléaire, ils ont de l'argent. Ils sont capables de trouver de l'argent dans ces moments-là. Il n'y a pas de problème.
Ça, c'est du ruissellement.
Il y a
hein.
clairement maintenant, du coup, une dépendance énorme des villages, des municipalités à l'argent du nucléaire, parce qu'il y a des villages dans les 10 km autour de l'Andra, impactés par le projet. C'est carrément 60% de leur budget qui dépendent de l'argent du nucléaire aujourd'hui. Et 80% de leurs projets sont financés par le nucléaire. Donc faut vraiment imaginer un immense territoire, quoi, vraiment sur plusieurs dizaines de kilomètres, qui est dans une dépendance économique, et pas seulement, et maintenant dans une sous-occupation policière vis-à-vis du nucléaire, quoi.
Et est-ce que ça marche ce côté bataille de l'opinion avec les habitants, habitantes historiques?
Bah, justement, c'est pas évident, parce que déjà l'occupation militaire, j'ai l'impression que ça en calme certains, entre guillemets, au sens ça fait peur, quoi. Les gens sont pas habitués clairement à ça dans des, vraiment on parle de villages de 80, 100, 150 habitants, et en plus il y a quand même une espèce de résignation. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de luttes dans les années 90 contre l'implantation du laboratoire de l'Andra, mais une fois que le labo a été construit, il y a eu quand même pas mal de personnes qui se sont dit c'est trop tard, maintenant on peut plus rien faire. Mais là il y a une nouvelle génération, quoi, depuis 2015 qui a participé à relancer un mouvement de lutte sur le terrain, et qui, pour certains, ça change rien à leur résignation, pour d'autres ça leur redonne de l'espoir et ça leur a redonné envie de lutter. Mais quand même ça reste difficile, que c'est un territoire très 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 peu peuplé. On est à 6-7 habitants au kilomètre carré. Donc c'est bien pour ça la préfecture et le gouvernement l'avait assumé clairement. C'est pour ça que ça a été choisi, parce que c'est très peu peuplé et qu'il n'allait pas avoir beaucoup de résistance. Donc voilà, clairement la lutte est difficile avec les habitants historiques, quoi. Il y en a évidemment certains qui sont à fond, quoi, mais qui sont justement visés principalement par les procès, par des saisies de matériel pour avoir aidé une manifestation, des choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'intimidations qui sont faites justement envers les habitants historiques pour qu'ils ne se rallient pas à la lutte actuelle sur le terrain contre la poubelle, quoi.
Après, de toute façon, ces histoires de déchets nucléaires, ça, c'est pas du tout comme ça peut être pour d'autres luttes de territoire, on pourrait dire. Mais en tout cas, quand il s'agit de déchets nucléaires, c'est pas du tout une lutte qui ne concerne que les gens qui habitent à côté. C'est-à-dire que de toute façon, ces déchets seront dangereux pour tellement longtemps que c'est pas les quelques personnes qui habitent dans le coin qui sont concernées au premier chef, en fait.
Clairement, c'est ce qu'on dit depuis un moment, c'est que la lutte ne pourra jamais se gagner seulement à l'échelle locale. Qu'une catastrophe nucléaire, ça concerne tout le monde, et même tout simplement ces opérations de désertification rurale, elles concernent tout le monde aussi, parce que je pense que tout le monde a envie de vivre entre du béton et des poubelles. C'est clairement attendu des comités de soutien qui sont formés partout en France et même au-delà depuis plusieurs mois, qui sont devenus des comités de lutte aussi contre la poubelle nucléaire et contre le nucléaire. En fait, c'est en grande partie à partir d'eux que la lutte pour se gagner, à partir des rassemblements, de toutes les actions qui seront faites contre aussi les sous-traitants de l'Andra, parce que la poubelle nucléaire a des sous-traitants partout. Il faut des centaines d'entreprises en fait pour permettre un projet aussi gigantesque. Donc clairement, c'est à une échelle au moins nationale et même internationale qu'il faut que la lutte s'engage.
Ok, alors écoute, Dominique, nous on va passer à la suite de nos informations. C'est sûr qu'on va vous souhaiter bon courage complètement et pour la fin de la journée, pour la suite de la journée, pour les jours qui viennent et pour tout le temps. Est-ce que tu nous rappelles quels sont les prochains rendez-vous ?
Ouais, alors donc là, en ce moment, il y a une semaine d'atelier bon, qui est un peu compromise, mais qui va avoir lieu, d'atelier d'échange de savoirs divers. Après, il y a du 26 au 28 août, il y a un défilé caravane associative qui est organisé sur la voie de chemin de fer qui doit être réhabilitée par Andra. Et du 3 au 10 septembre, il y a une grande semaine de rassemblement avec, pareil, plein d'ateliers, plein de choses prévues par rapport aux échéances dont je parlais tout à l'heure qui vont arriver. Voilà, c'est essentiellement ça les dates à venir.
Ok, et bien alors merci et bon courage encore une fois.
De rien, merci beaucoup. Bonne journée.
Et voilà, je vous propose qu'on commence une rubrique qui concerne les entités qui se déplacent et qui sont mal reçues. Pourquoi je prends ce verbiage, c'est que on va commencer par quelque chose d'assez entre guillemets comique, puisque on va aller voir du côté de la Hongrie et on va parler très rapidement de la cavale de Roby. En fait, c'est un ours. Alors, ce qui est important, c'est qu'il est slovaque. C'est un ours qui est rentré depuis la Slovaquie en Hongrie, et qui a fait 300 km sans finalement blesser personne. Alors il y a plein de personnes, il y a eu de nombreux témoins qui ont dit que cet ours c'est une oursonne d'ailleurs de 100 kg, avait un comportement absolument pacifique. Eh bien, cette oursonne s'est donc fait rattraper après 300 km en Hongrie. Elle s'est fait shooter pour qu'il la ramène donc à la frontière. Elle a donc été reconduite à la frontière de la Slovaquie il y a quelques jours. Voilà, donc c'est juste pour expliquer que en Hongrie, même les ours sont reconduits à la frontière. Petite parenthèse un petit peu positive pour aller dans le carrément glauque, puisqu'aujourd'hui la Hongrie vient de faire passer une loi particulièrement odieuse, donc plus exactement la Hongrie et Viktor Orban, donc qui est le président de la Hongrie, qui est un populiste ultra conservateur, va criminaliser toute entité ONG qui aidera des demandeurs d'asile.
Et alors exactement, les personnes vont risquer, enfin toute personne portant assistance à un individu entré illégalement en Hongrie risque jusqu'à un an de prison, sauf si la vie de la personne est immédiatement, alors attention, immédiatement en danger. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir sacrément prouver à quel point la personne était en danger.
Voilà, alors par exemple, tu as Amnesty International Hongrie qui cite le cas d'un ou d'une avocate qui pourrait se trouver condamnée à une peine donc, d'un an d'emprisonnement pour avoir apporté des informations sur la procédure de demande d'asile. Voilà.
Voilà, et on précise que cette loi fait quand même partie d'un ensemble qui comprend notamment une modification de la Constitution pour y inscrire qu'aucune instance ne peut porter atteinte à, je cite, la composition de la population hongroise. Hein. Vous y voyez là quand même la théorie du grand remplacement. Dans le but, entre autres, de rendre inconstitutionnelle la mise en place éventuelle de quotas de migrants. Quotas de migrants mis en place par... qui pourrait éventuellement un jour peut-être être mise en imposée par l'Union européenne. Et si on continue ce petit tour d'horizon, tu avais encore des trucs à dire sur la Hongrie ?
Non, c'était une loi qui était présentée en février et qui a été modifiée après les élections législatives du 8 avril. Mais en fait, c'est que lors de ces élections, Orban, malgré le fait qu'il avait, par exemple, présenté cette loi avant les élections, eh bien, il a eu une large victoire. Donc du coup, il s'est dit quelque part, vas-y mon kiki, et il a surtout pas infléchi cette loi donc, qui, je le répète, donc, du côté de la Hongrie, va criminaliser les personnes qui viendraient en aide aux des demandeurs d'asile et aux réfugiés. Donc, tu voulais continuer dans cette thématique, juste pour citer très rapidement un article du Guardian qui date d'aujourd'hui, qui a publié la liste de 34 361 migrants-migrantes qui sont morts depuis 25 ans en essayant d'entrer en Europe. Voilà. Donc il y a une soixantaine de pages disponibles par le site, par le journal, le quotidien britannique The Guardian.
Est-ce que tu sais si, si ce chiffre comprend les gens qui sont morts sur les routes, mais du coup qui sont morts plus sur les routes par exemple sur les routes libyennes, ou c'est vraiment à des chiffres qui concernent nos frontières?
Non, je ne saurais pas. Ce sont des migrants, migrantes et réfugiés qui sont morts pour essayer de pénétrer dans, j'ouvre les guillemets, la forteresse Europe, qui est en fait ce qu'on utilise pour bien étiqueter en fait cette politique anti-migrant qui suggère que vaut mieux laisser tout le monde en dehors de cette forteresse que laisser rentrer.
Et on en avait parlé il y a 3 semaines et cette politique a un prix du coup humain et a peu de prix de considération politique avec les régimes avec lesquels elle collabore. Basta avait aussi fait un gros article là-dessus où il était démontré que l'Europe en fait collaborait avec tout un tas de régimes autoritaires et militaires pour main dans la main pour former les gens pour arrêter, que les gens soient arrêtés avant qu'ils arrivent même au bord de nos frontières. C'est un peu ça le nouveau but de l'Europe, c'est-à-dire d'agir dans les pays où les gens essayent de passer. Et pour revenir sur le chiffre de mort, il y a un chiffre qui était sorti il y a quelques temps où on estime à plus du double du nombre de morts, de gens morts qui sur les routes avant de passer la Méditerranée. C'est-à-dire que vous avez le nombre de morts en Méditerranée, vous multipliez par un peu plus de 2 et vous avez en plus de ça les gens qui sont morts avant même d'arriver à cette mer.
Voilà, il y a des très bons livres et même des reportages qui peuvent se retrouver, notamment un qui était passé sur Arte. Imaginez-vous passer du Niger pour aller en Libye. Si vous regardez un petit peu comment c'est fait sur une carte de géographie, c'est pas un endroit super accueillant. Et en fait, vous pouvez être amené à par exemple monter sur un camion qui va transporter énormément de monde. Si par hasard vous tombez du camion, ben en tout cas on s'arrêtera pas pour vous. Si par hasard vous n'avez pas assez d'eau, on vous en donnera pas. En tous les cas, effectivement, sur cette route, donc dans le désert tout simplement, il y a des corps, faut être clair, des corps d'Africains et d'Africaines qui sont là et qui sont peut-être pas comptabilisés.
Bon, alors vous en avez très certainement entendu parler, mais quand même au cas où on ne pouvait pas ne pas en parler, mais aux États-Unis, plus de 2000 enfants sont enfermés dans des centres improvisés sans leurs parents qui ont été conduits directement en prison, car depuis peu, suite à un nouveau décret, le fait de passer illégalement la frontière états-unienne peut être poursuivi pénalement, et là aussi on assiste à une criminalisation du fait de passer la frontière. Poursuite pénale, et donc concrètement les gens finissent en prison sans même attendre l'éventuel dépôt d'une demande d'asile. Et comme les mineurs ne peuvent pas être envoyés en prison comme il s'agit d'un pays démocratique, donc ils sont donc parqués dans des cages, en confère de nombreuses vidéos relayées par plusieurs médias, avec des couvertures de survie, no comment là-dessus.
Donc ça, c'était particulièrement odieux, et on peut préciser que Madame Trump s'est émue de tout ça, alors que son mari est largement à l'origine de tout ça.
Et tout ça fait quand même partie d'un espèce de jeu politique un peu dégueu, qui est que Trump, par ça, fait pression, et d'ailleurs Melania Trump a aussi ajouté ça à la fin de cette déclaration. En gros, ils disent, bon bah ok, nous, comme pour lui, il est hors de question d'infléchir sa politique dure vis-à-vis de l'immigration. Il veut forcer la main en prenant en otage quand même des milliers d'enfants, les démocrates à voter sa loi qui concerne tout un tas d'articles qui criminalisent encore plus l'immigration. Bref, voilà, c'est un peu tout ça qui est en jeu en ce moment. Bien sûr, on ne reviendra pas sur l'épisode de l'Aquarius, mais au moment où il semblerait qu'on devrait se serrer un peu les coudes, les dirigeants. Donc on le constate, de plusieurs pays dans le monde ont décidé autrement, alors soit par idéologie nationaliste, soit par peur de voir l'extrême droite arriver au pouvoir, quitte à appliquer les pires de leur position en matière d'immigration, confère Gérard Collomb. Heureusement, on peut respirer un peu. À côté de tout ça, tout un tas de gens décident que cela doit se passer autrement, et le font concrètement, que ce soit en occupant des écoles, les écoles de leurs enfants, pour les personnes qui sont dans la dèche, sans logement et aussi souvent avec des problèmes de papier, ou en s'organisant de plein de manières différentes un peu partout en France pour accueillir des gens chez eux, voire plus. Bref, tout n'est pas foutu. aurait bien Basta. On parle beaucoup de Basta dans ce journal. Basta a sorti un gros, gros dossier sur les morts suite à une intervention policière en France. Il s'agit là de données sourcées, croisées et vérifiées. Je le précise parce que quand on parle de ça, souvent les choses sont remises en question. Ils détaillent un peu leur méthodologie. En tout cas, ils précisent que c'est une première. Hein. Jamais un journal en France ne s'était attardé à faire ce job. Basta a recensé ses morts depuis janvier 1977. Pourquoi cette date? Eux racontent que pas avant, car c'était plus compliqué et que ça allait leur prendre plus de temps. Ils vont le faire, mais plus tard, parce que au niveau des archives, tout ça, c'était un peu plus complexe. Bref, des problèmes techniques. Et pourquoi être remonté aussi loin? Bah, pour avoir une évolution sur le long terme de tous ces morts. Pourquoi ils se sont attelés à faire ça? Parce qu'en France, il n'y a aucune donnée officielle. La seule donnée qui existe, c'est le nombre de tirs par arme à feu des fonctionnaires de police. Nombre de tirs qui, entre parenthèses, est en large augmentation. Dans d'autres pays, ces recensements existent. Il s'agit soit de chiffres officiels, soit, comme aux États-Unis, de la presse qui s'en charge, comme le Washington Post qui publie ça chaque année. Les chiffres concernés incluent toute personne décédée suite à une intervention policière, que ce soit suite à un tir, à des coups, ou bien en tentant de fuir la police. Ils incluent également les morts qui ont eu lieu en dehors des heures de service des flics. Sur ce point, Basta justifie, je cite, « Nous avons choisi de les prendre en compte principalement pour une raison. Un décret de 1995 dispose que les obligations de fonctionnaires de la police précise, je cite, ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service. » Vous avez compris ce que ça voulait dire?
Ouais, sous-entendu, un flic en vacances est un flic.
Et les chiffres le prouvent. Depuis 2017, la loi autorise plus facilement les policiers à conserver leurs armes en dehors de leur service. Il nous apparaît donc important, là c'est toujours Basta qui parle bien sûr, de suivre les éventuelles conséquences de cette mesure. Ces faits concernent pour le moment... Non, là c'est pas très clair. Non, voilà, oui, c'est ça. Pour finir, en tout cas, Basta ne se préoccupe pas du tout de la légitime défense. En gros, si les flics étaient en cas de légitime défense ou pas, ils dressent juste un bilan brut et tentent d'analyser ces chiffres. Et voilà, pour ce qui était de leur méthodologie.
Alors, eux, ils me précisent bien aussi qu'ils ne veulent pas préjuger de la légitimité, de l'intentionnalité ou de la légalité de l'acte de la part du flic ou des flics qui, à chaque fois, a mené à la mort d'une personne, que c'est pas ça qui les intéresse. Mais ce qui les intéresse, pour le coup, c'est quand même bien d'analyser les chiffres qu'ils ont récupérés. Et là, tout ça est fait en plusieurs articles. Alors déjà, la première chose un peu évidente quand on regarde les graphiques, c'est que c'est quand même en augmentation, alors pas constante, hein, y a des moments où ça rebaisse, puis des moments où ça remonte, mais que l'année où il y a eu le plus de personnes tuées par la police, tiens, c'est la dernière année qui est passée en entier, c'est 2017. Donc depuis 40 ans, c'est l'année où il y a eu le plus de personnes tuées par les flics.
Avec 35 morts.
Avec 35 morts. Alors après, ils essayent d'abord une sorte de machin sur la chronologie, mais qu'ils trouvent eux-mêmes pas bien convaincant. Donc, par exemple, 2017, 2012, 2007, trois années de campagne électorale et trois années de pic de gens tués par les flics. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport? Comment? Est-ce que les hommes politiques au pouvoir, qui sont encore chefs des flics à ce moment-là, encouragent les flics à se lâcher pour des raisons de popularité et de soucis des Français pour l'insécurité, etc., etc. On ne sait pas bien. D'autant plus que ce n'est pas confirmé par le fait que les années électorales précédentes, les trois précédentes par exemple, ce n'est pas du tout des années où il y a eu beaucoup de personnes tuées par les flics. 1981, 1995, 2002, c'est plutôt des mois où il y a eu moins de 6 morts tués par les flics par an. Alors que d'autres années qui ne sont pas des années avec particulièrement des élections, 1980, 1994, 2014, ça c'est des années noires. Donc a priori, cette piste, il s'y attarde quand même pas plus que ça. Mais alors, il s'attarde beaucoup plus sur les causes de la mort. Et donc, la principale cause de la mort de personnes qui... Enfin, suite à une rencontre avec des policiers ou des gendarmes, c'est quand même les armes à feu. Les gens se sont fait descendre. Or, il se trouve que, alors, sur la période donc, de 40 ans, 160 personnes ont été abattues par les flics ou les gendarmes, c'est-à-dire vraiment tuées avec des armes à feu. et que ces personnes ont été quand même massivement tirées dans la tête. Alors, 36% dans la tête, 23% au thorax, 17% dans le dos, 8% au cou et à la nuque, 7% dans le cœur. Les autres, soit 9%, ont été touchés à l'abdomen ou à la jambe. Alors, il nous explique bien que, évidemment, en fait, que les gens qui ont été tués parce que les flics ont tiré dans des zones potentiellement mortelles, le cœur, la tête, la nuque. Mais cette donnée, disent-ils, relativise les revendications des syndicats de police en ah non, alors pardon, je me trompe de ligne. je me rappelle plus comment je vais terminer cette phrase, c'est pas grave, je continue. Et Bastamag souligne qu'il revient aux agents sur le terrain de discerner la gravité de chaque situation et donc la proportion et l'immédiateté de la réponse au moment où eux, ils sentent qu'il se passe un truc. Or, dans 60% des cas de gens tués par la police, abattus par balles, 60% de ces gens-là n'étaient pas armés. Elle n'avait pas la moindre arme sur elle. Et donc, selon les données disponibles, les policiers et policières se retrouvent directement menacés dans moins de 10% de ces situations. Au moment où, quand on dit directement menacé, on parle vraiment de bandits qui tirent sur les flics, de gens qui sont abattus au cours de fusillade. Cette donnée relativise les revendications des syndicats de police en matière de présomption de légitime défense. Est-ce qu'on peut considérer qu'un agent est présumé en légitime défense et donc échapper automatiquement à une procédure judiciaire s'il ouvre le feu sur une personne qui n'est pas armée ? Ce qui se produit donc dans une grande majorité des cas. Bon, ça, c'était pour les cas de mort par arme à feu. Maintenant, la deuxième cause de mort, c'est les accidents de la route. Alors, quand on dit accident de la route, c'est pas juste quelqu'un a grillé un feu et il se fait buter. C'est pas juste quelque chose comme ça. C'est bien des histoires de course-poursuite. Généralement, alors il y a vraiment des sortes de scénarios types là-dedans. C'est des scénarios où c'est quand même assez souvent des brigades de la BAC, de la brigade anticriminalité, qui sont mouillées. C'est quand même assez souvent dans des quartiers populaires. Et généralement, c'est au moment où une personne, ou éventuellement plusieurs personnes, à bord d'une voiture ou sur un deux roues, tente d'échapper à un contrôle d'identité. Et éventuellement, ça peut être des gens qui ont volé un scooter, par exemple. Et qui n'ont pas envie de se faire... Dans ce cas, quand même, ce qui se passe assez souvent, c'est une polémique qui revient régulièrement, qui est la technique dite du pare-chocage par les flics. C'est-à-dire que les flics poursuivent un véhicule, en particulier un deux roues, et le coincent contre le trottoir. Lui tape dedans, le coince contre le trottoir, et c'est à ce moment-là où quand même assez souvent des gens éventuellement qui n'ont pas de casque sur un deux roues typiquement meurent dans l'accident. Et généralement dans ces cas-là, deux versions se contredisent. D'un côté la version de la police et de l'autre la version de la plupart des témoins.
Sachant qu'il est fait normalement comme consigne aux flics de ne pas poursuivre une personne à scooter qui n'a pas de casque, pardon. Un scooter, en moto, bref.
Ceci dit, on dirait qu'ils le font quand même un paquet de fois. C'est ça. Et donc, la plupart du temps, dans ces cas-là, l'enquête qui suit la mort n'aboutit pas à pouvoir déterminer les circonstances exactes du décès, puisqu'on a d'un côté une parole, d'un autre côté une autre parole. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? C'est comme ça, et on ne va pas non plus condamner des flics qui aussi ont droit à la présomption d'innocence. C'est la moindre des choses. Autre cause récurrente et controversée de décès, les malaises. Une soixantaine de personnes dans les 40 dernières années sont ainsi décédées alors qu'elles étaient déjà entre les mains des forces de l'ordre, que ce soit dans un véhicule de police, lors d'une garde à vue, en cellule de dégrisement. Et les autorités, généralement, dans ce cas-là, invoquent tout de suite une mort naturelle, très très vite, et parlent généralement d'un éventuel antécédent de santé.
Bah tiens.
Parfois, c'est des trucs qui peuvent être confirmés, mais alors parfois, pas du tout. C'est-à-dire qu'on commence par parler d'un antécédent de santé, un problème cardiaque, un problème de poumon, déjà connu chez la personne, blabla, ou remarqué à l'autopsie, mais finalement, généralement, les contre-autopsies disent que non, il y avait... Enfin, généralement, ou en tout cas, c'est pas très rare que les contre-autopsies ne trouvent en réalité aucun problème.
Et puis ça reste à double tranchant, cette histoire, de dire, désolé... Il est mort parce qu'il avait un problème, mais bon, voilà, il était bien vivant juste avant.
C'est ça. Et donc, les autorités, dans ce cas, tiennent cette version, y compris quand les circonstances restent troubles et quand on a, par exemple, des traces de blessures sur le corps de la personne décédée, des versions contradictoires de plusieurs des agents qui étaient là, ou d'évidentes rétentions d'informations de la part du commissariat. Voilà, ces malaises sont souvent consécutifs quand même à des arrestations musclées. Et alors, pour au moins une vingtaine de ces malaises sur les 40 dernières années, l'autopsie évoque une mort par asphyxie. Et ce qui est en cause ici, c'est la technique dite du pliage ou du plaquage ventral. Et donc, on voit ces différences. En fait, on a déjà parlé souvent depuis que nous on fait Scanu Info, vous allez reconnaître des noms de cette technique qui est vraiment une technique qu'on apprend aux flics dans leur cours de baston, et qui est une technique qui est interdite dans un certain nombre de pays parce qu'elle est très dangereuse, parce qu'on tue réellement les gens en faisant ça. C'est une sorte de clé d'étranglement, une manière de choper les gens, de les mettre par terre, de les tordre dans tous les sens, et là paf, ils sont étranglés et donc ils meurent de manière, c'est pas si rare. Et donc on a pu parler ici dans Scanu Info de Abdelhakim Hajimi, de Ali Ziri, qui était un retraité qui est rentré chez lui un soir un peu bourré, puis qui finalement est mort dans une cellule, de Wissam El Yamni, qui est un gars qui a été tué à Clermont-Ferrand, de Adama Traoré.
Voilà. Clé de bras que moi j'ai vu faire à la sortie d'un train pour une dame africaine qui avait un billet mais qui ne l'avait pas composté et qui a commencé à s'agacer. Et donc, pour ce type de motif, c'est un peu agacé la dame, hein, mais la femme flic lui a fait ce truc qui fait qu'en une seconde à peu près, la femme est couchée par terre, face contre terre. Voilà,
c'est ça. Bastamac se demande ensuite s'il existe un portrait type des personnes qui sont tuées. Et donc, il commence par dire qu'en tout cas, il n'y a pas de règle absolue, puisque que ça soit de l'âge, ils ont des enfants de 3 et 5 ans. Alors ça en l'occurrence, c'est effectivement un flic qui est rentré chez lui et qui a tué ses gamins. Mais donc, comme tu nous expliquais tout à l'heure, Bastamac tient à prendre en compte les morts
hors des heures de service.
Mais bon, ceci dit, des adolescents, des préadolescents qui sont pas choqués, par exemple, c'est pas rare non plus. Là, on peut penser à ce gamin qui s'appelait Nelson, je crois, à Marseille, qui avait 14 ans, qui était en mob et que les flics ont tué dans un accident de la route dont les circonstances restent, pour être poli et ne pas commettre de délit radiophonique, reste discuté. Voilà, et d'un autre côté, on a un gars qui s'appelle Joseph Petit-Huguenin, retraité, 77 ans, retrouvé sans vie au commissariat d'Amandy dans le Doubs en 2010. On a des hommes, on a des femmes, on a un agriculteur, on a vraiment toutes sortes de gens. Mais alors malgré tout, on peut dégager des sortes de profils types. 94% des personnes tuées sont de sexe masculin. Il y a seulement 28 femmes sur les 40 ans. La moitié des morts recensés ont moins de 25 ans. Depuis une décennie, on trouve également de plus en plus souvent des personnes considérées comme atteintes de troubles psychiatriques. Ça, c'est une évolution. Et qui sont appréhendées en pleine crise de démence. C'est-à-dire des gens qui pètent les plombs, les flics arrivent et les immobilisent, en particulier avec cette technique d'étranglement. Et donc là, il y en a un certain nombre qui s'en relèvent pas, ou les flics leur tirent dedans tout simplement. Hein. Les policiers français, nous dit Bastamag, apparaissent mal préparés à gérer ce type de situation. L'option d'ouvrir le feu étant, semble-t-il, fréquemment retenue. Voilà, alors l'article d'analyse est relativement long. Là, j'ai vraiment sorti des éléments, fait un résumé, mais ça vaut le coup d'aller le voir sur Bastamag. Et il se conclut en disant que sur ces 4 décennies, un profil des personnes décédées se dessine néanmoins. Comme nous l'avons vu, il s'agit souvent d'un homme âgé de 17 à 25 ans, qui porte fréquemment en outre un nom à consonance africaine ou maghrébine, qui habite un quartier populaire en périphérie d'une agglomération comme Paris, Lyon ou Marseille, puisque la moitié des affaires se concentrent sur ces 3 agglomérations. Et aujourd'hui encore, les personnes perçues comme noires ou arabes ont beaucoup plus de risques de se faire contrôler, d'après une étude du CNRS sur les contrôles aux faciès. Or, comme c'est expliqué plus tôt dans l'article, mais pas une partie que je vous ai racontée, les contrôles d'identité sont à l'origine de près d'un quart des morts. Alors pardon, je parlais de conclusion, mais pas du tout. La conclusion, c'est sur la nécessité d'engager la responsabilité de l'État. Et donc, toujours ce truc où, alors, en 79, déjà, un syndicaliste policier disait « Sans une volonté politique du gouvernement, on ne pourra mettre un terme aux bavures policières. » C'était en 79, 40 ans plus tard. La question reste posée avec la même acuité, alors que le nombre de personnes tuées chaque année est en augmentation. Et donc, ça se termine en citant la réponse du ministre de l'Intérieur du gouvernement précédent, Bernard Cazeneuve, à une question d'une députée sur la responsabilité des gendarmes dans la mort d'Adama Traoré. Et là, du coup, sans prononcer un seul mot pour la famille, pour la victime, pour les proches de la victime, sans alors du tout s'intéresser à lui, sa seule réponse, sans même mentionner le nom de Adama Traoré, le ministre répond par le respect et la reconnaissance du travail des forces de l'ordre.
Et s'ensuit de ça tout un tas de problèmes judiciaires pour l'entourage de la famille Traoré, où genre ses frères finissent en garde à vue, sa sœur, enfin bref, ça fait tout un tas de trucs où les flics font focus un peu pour...
Aussi parce que c'est une famille qui pour le coup tient à avoir la justice et la vérité,
c'est
et
ça,
qui sont extrêmement décidés dans cette démarche.
Et du coup, pour finir un peu quelques chiffres bruts un peu que t'as pas dit ou peut-être que t'en as dit, bref. Je sais pas si on a précisé quand même, mais on parle quand même de 478 personnes, on l'a précisé au début.
Je sais plus si on a précisé.
Bref, en tout cas voilà, 478 personnes sont mortes du coup durant ces 40 ans, ça fait sur une moyenne brute à peu près 11 personnes par an. Donc tu disais que 270 ont été tués par arme à feu, 163 n'étaient pas armés quand ils se sont fait tirer dessus par la police. Et parmi les 97 armées, il y en avait 70 qui étaient armés seulement d'une arme blanche. Quand même, c'est-à-dire que quand on parle d'armes, c'est au sens large. Là, il y en avait quand même 70, donc l'immense majorité qui était juste armée d'un couteau, d'une hache. Enfin, bref. Les armes dites non létales sont à l'origine de 9 morts. Il ne parle pas des mutilations. 69 personnes sont mortes en état d'arrestation dans un commissariat ou une gendarmerie. Les BAC sont particulièrement concernés par ces morts. Il existe, semble-t-il, un effet Pasqua dans les années 86 et 93. Et Basta s'interroge s'il y aura un effet Colomb sur ces chiffres. Et c'est le moment de passer à la suite.
Alors c'est une petite info que j'ai trouvée dans le journal La Dépêche, mais vous allez voir, c'est quand même assez passionnant, assez flippant. Toujours est-il que ça se passe dans le bled de Cordes-sur-Ciel, c'est dans le Tarn, entre Agen et Montauban un peu, dans lequel il y a un collège. Dans ce collège, il y a des gamins, ils étaient 5, ils étaient en permanence, et là, en permanence, ils s'occupaient à rédiger une sorte de petit journal satirique. Et puis, le pion passe, le pion remarque qu'ils sont en train de faire quelque chose ensemble, il arrive, il saisit le machin, il l'embarque. Il fait des photocopies et il les apporte au CPE, au directeur, aux différents profs, etc., etc. Et là, attention, l'affaire est grave. L'affaire est extrêmement grave. Alors, tout ce que je raconte se passe en mai 2017, c'est-à-dire juste après les présidentielles. Et c'est entre autres, dans les cibles du journal, on a Marine Le Pen et on a Emmanuel Macron. Bon, du journal, attention, il s'agit vraiment d'un papier ou peut-être de deux papiers pliés, écrits au stylo. C'est un truc qui n'a même pas été photocopié. C'est-à-dire non seulement il a pas été diffusé, mais a priori c'est un truc en un exemplaire, mais qui se présentait juste avec une forme, avec des petites rubriques, quoi. Donc le CPE et sa belle-sœur. Ah, alors les gamins sont d'abord convoqués dans le bureau du principal. Mais à ce moment-là, eux, ils présentent leurs excuses. Il y en a un même qui écrit une lettre à ses professeurs pour s'excuser. Bon, là, il y en a certains qui racontent ça à leurs parents, d'autres non. Toujours est-il que les parents finiront bien par être au courant grâce à une convocation des gendarmes. Eh bien oui, c'est parce que c'est là qu'on en est. Alors, après le passage dans le bureau du principal, le CPE et une prof d'allemand, qui par ailleurs est la belle-sœur du CPE, mais quand même c'est pas très intéressant comme info, décide de porter plainte pour injure non publique. Parce que quand même...
Injure non publique, c'est possible, ça.
Injure non publique, c'est possible. Bah, par exemple, si t'injuries quelqu'un dans ta une pièce, t'as pas le droit.
Quelqu'un
qui serait là, tu vois. Enfin, alors du coup, dans l'article, mais je me suis pas vraiment attardé là-dessus parce que c'est pas le plus passionnant. Il s'attarde un peu sur la définition juridique d'injure et d'injure non publique. Bon, c'est un truc qui existe. Et cette histoire de journal peut, à la limite, rentrer dans le cadre, mais quand même, c'est un peu limite.
Mais personne va y donner suite.
Alors, bien sûr qu'on va se dire que personne ne va y donner suite, des collégiens qui écrivent une feuille. Et alors, je finirai par vous dire ce qu'il y a sur la feuille, mais vous allez voir, c'est du salé. Donc, à la fin du mois de juin 2017, c'est un mois après, les collégiens reçoivent une convocation à la gendarmerie. Ah si, les gendarmes en tout cas, malins comme des gendarmes, ont donné suite. Écoutez, ils vont à la convocation, hein. Ils s'expliquent, les militaires transmettent le résultat des dépositions au parquet. Et voilà qu'un an après, les enfants reçoivent à nouveau une convocation, et cette fois du délégué du procureur. Donc c'est là qu'on en est.
Ah ouais.
Cette fois-ci, ils vont chez le procureur. Avec, pour certains, quand même une convocation la veille du jour du brevet des collèges, qui est l'examen qui passe, parce que maintenant ils sont en troisième. Pardon. Alors, finalement, le Canard Enchaîné fait un petit article dessus. Et suite à l'article du Canard Enchaîné, la convocation est annulée. Alors, est-ce qu'elle est annulée? Est-ce qu'elle n'est pas annulée? Un parent d'élève appelle le tribunal pour savoir si c'est une annulation définitive ou juste un report. Tout le monde trouve qu'ils ne savent pas. Bon, finalement, le procureur de la République de Albi explique qu'il a fait annuler la convocation parce qu'elle était à la veille d'un examen. Mais que ça sera réexaminé plus tard. En tout cas... le journal a aussi contacté un syndicat, l'UNSA, un syndicat d'enseignants. Et l'UNSA, à travers sa secrétaire départementale, Cécile Alibert, souligne que les faits reprochés aux enfants sont assez graves.
Ah, mais ça, c'est courageux, ça.
Quels sont les faits en question? Sur la fameuse double page rédigée par les jeunes, on pouvait lire, par exemple, deux points, ouvrez les guillemets, la classe de 4e L fait un arrêt cardiaque général suite à l'exercice impossible de géographie. Ouf. Vous allez dossier. Me dire,
c'est subversif ça.
Non, non, il y a bien pire, bien pire. Un bulletin météo fait état d'une sévère pluie de grêlons, entre parenthèses, sperme gelé. C'est vrai que là, on tombe dans le sordide qui se serait abattu sur le Tarn suite à une éjaculation précoce du CPE. Oh putain, ils remettent en cause la virilité du CPE. On y parle aussi d'une prof analphabète. Il y aurait une mention de, donc c'est juste après les présidentielles, Emmanuel Macron fait son premier caca à l'Elysée. Marine Le Pen devient Marine Lapine, attention, en un seul mot, hein, c'est le féminin de lapin, c'est pas un truc... Et il y a aussi une caricature de Marine Lapine qui précise « Le peuple français a évité le pire », dans la mesure où elle n'a pas été élue. Bon voilà. Alors comme on voit des propos bon plus ou moins rigolos, mais enfin en vrai quand même, éventuellement ça pourrait même être un petit peu drôle. En tout cas dont aucun finalement n'aurait fait tache dans un journal vendu en kiosque, dont aucun aurait certainement soulevé la moindre poursuite en aucune manière. Un journal par exemple pour adultes, par exemple un journal satirique. Alors voilà, c'est là qu'on se souvient qu'en 2000 France, toute la France était Charlie. En 2015, pardon, toute la France était Charlie. Que la moindre des choses pour l'ordre républicain, l'ordre scolaire, c'était de défendre la liberté d'expression.
Et le droit à la caricature.
Et le droit à la caricature et à la satire. On se souvient quand même qu'à l'époque, liberté d'expression, ça voulait dire à peu près devoir de blasphémer la religion des classes populaires. Mais quand même, ça s'appelait liberté d'expression. Alors 3 ans après, tout ce vocabulaire est remis au placard. On ne parle plus de liberté de quoi que ce soit, sauf peut-être vite fait la liberté d'en... Enfin non, sauf peut-être complètement la liberté d'entreprendre. Et on envoie des gamins, des gamines au tribunal pour une feuille de papier rédigée en permanence et pour avoir mentionné le caca du président.
Voilà, moi je voulais juste terminer par un petit au revoir, puisque c'est après 9 ans de passage à l'antenne sur cette magnifique antenne associative de Radio Canu. Je pensais que ça valait le coup de suggérer à celles et ceux qui nous écoutent de venir dans les locaux de Radio Canu, de venir participer à tout ce qui s'y fait. Il n'y a rien de plus, positif et utile que de s'exprimer, en particulier à l'antenne, en particulier dans ces infos. Qui, à part vous, peut dire ce dont on parle sur cette antenne, toutes ces journaux, toute cette presse alternative que l'on peut citer librement sur le 102.2 de Radio Canu. Voilà, donc c'était un encouragement vif et mesuré à peine, quoi, et